Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir sa vision sur le monde au travers des expériences de vie. Donc dans le voyage, on fait souvent des rencontres assez improbables. Et dans le voyage, d'ailleurs, ça, ce que moi je retiens le plus, on peut s'émerveiller d'un beau paysage, mais souvent ce qui va rester, c'est un échange, un regard, une rencontre. Et je pars du principe que on est tous inspirants, on peut tous être inspirants les uns pour les autres. Et des fois, les parcours de vie d'une personne peuvent avoir une influence sur d'autres parcours. Et voilà, donc l'idée c'est qu'on prenne le temps de te rencontrer, découvrir quel est le parcours de Géraldine. Donc on va peut-être venir au début, hein, où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi et à quel moment tu as décidé de sortir du carcan social ou familial pour prendre la route.
Salut. Mes premiers souvenirs de voyage ou d'émancipation, comme tu dis, ça a été mes premiers voyages vers Mulhouse, donc un énorme voyage de Strasbourg jusqu'à Mulhouse. Mais néanmoins, j'étais jeune ado et j'allais voir ma grand-mère et je me souviens de ces sentiments de liberté et de légitimité au moment où j'étais assise sur mon fauteuil dans le train et je me disais là, je suis chez moi, j'avance, je vais. Et voilà, ça c'est mes premiers souvenirs d'escapade.
En solitaire alors ?
En solitaire, ouais, dans le voyage.
C'est pas tes parents qui t'ont fait découvrir, transmis le goût de l'aventure et du voyage ?
Plus tard. Mais je me souviens de vacances toutes jeunes aussi, en Grèce et en Crète, avec ma mère effectivement. Qui voilà, ça a été mes premiers pas, peut-être en dehors de France, qui m'ont marqué et qui m'ont imprimé. Et je voyageais à ce moment-là, donc avec ma mère et son compagnon de l'époque, qui disait toujours « les voyages forment la jeunesse et déforment les valises ».
Alors le voyage, on va peut-être commencer par définir ce terme, ou en tout cas ta définition du voyage. Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage ? Qu'est-ce que ça ? J'imagine que c'est évolutif aussi, hein. Le premier voyage et voyager aujourd'hui, ça peut-être plus forcément la même symbolique. Donc voilà, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui, Géraldine, le voyage ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que c'est que pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ?
J'ai entendu la question, je la mâchouille. Le voyage pour moi... Aujourd'hui, je fais autant de voyages sur la Terre qu'à l'intérieur de moi-même. Donc, je dirais que c'est quitter l'endroit où je suis pour aller là où je vais. Aujourd'hui, dans mes voyages d'aujourd'hui, mais il y en a eu tellement avant aujourd'hui. Aujourd'hui, dans mes voyages de maintenant, ce que je recherche, ouais, c'est les endroits de paix à l'intérieur de moi.
Ok, donc là tu es en train de me perdre dans des concepts philosophiques, mais c'est très bien. Mais on va quand même revenir à quelque chose de plus terrestre, le voyage dans le mouvement. Donc est-ce que tu peux me parler peut-être de la première fois où tu t'es vraiment senti en voyage ? Donc il y avait le train entre Strasbourg et Mulhouse, mais j'imagine que tu étais plus aventureuse que ça par la suite.
Yes, il était une fois, un jour où j'ai pris un billet d'avion pour rejoindre un vieux copain alsacien alors que j'habitais Paris à ce moment-là. Et je l'ai rejoint en Australie. Ça a été la première fois que j'ai pris mon sac à dos et que j'ai découvert le concept du backpacker. Je suis partie avec, je ne sais plus si c'était mon Lonely ou mon Routard. Et voilà. Et premier pas en Australie. Et déjà, à ce moment-là, j'ai changé mon billet retour pour partir en Thaïlande. Et à partir de là, j'ai rencontré un voyageur. Et nous avons fait, à l'époque, le tour du monde avec notre sac à dos. En 3 ans, en faisant des allers-retours en France pour venir gagner quelques petits ronds pour pouvoir continuer à rouler.
Et donc suite à ça, à l'Australie, tu fais tes armes en tant que backpackeuse, et tu dis, tu pars ensuite pour 3 ans de tour du monde.
Je découvre en Australie déjà les portes ouvertes en fait, les possibles de rencontres, de bonjour, de tu veux venir par là, ouais ok d'accord, et toute cette vie qui existe en voyage mais que du coup je ne connaissais pas, et donc cette facilité de rencontre, de se déposer, d'échanger, de naviguer en fait, à vue sans forcément prévoir. Et ensuite, 3 ans, pas 3 ans non-stop, mais sur 3 ans, effectivement, dans cette relation qui a duré 3 ans, on a parcouru tous les continents, sans du tout avoir évidemment vu tous les pays, ni rien du tout. C'est des petits sauts. J'aime beaucoup, moi, quand les gens disent « t'as fait l'Australie, t'as rien fait du tout ». Surtout en 3 mois, t'as rien fait du tout, et en 3 ans non plus. Mais oui, et je voyageais avec un Colombien, et donc ça, c'est aussi très intéressant de passer les frontières avec un passeport français et un passeport colombien.
Ça, souvent, on l'oublie. C'est vrai que nous, on a une chance incroyable que le passeport français ouvre quasiment toutes les portes du monde.
Ça, c'est vrai. Il y a le passeport suisse, parfois, qui nous fait un peu loucher, mais le passeport français, ouais. Ouais.
Tu as pu l'expérimenter, ça, en voyageant donc avec un copain colombien ?
Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, la Colombie, à ce moment-là, en tout cas, avait vraiment cette étiquette de cocaïne. Donc, toutes les frontières qu'on a passées en Afrique, c'était des mauvaises blagues, mais qui nous ont coûté soit du bakchiche, soit des heures. Et on a passé pas mal d'heures, comme ça, au poste frontière, à ne pas vouloir payer de bakchiche en disant « on passera ». Épluche donc mon sac, nous passerons.
Donc voyager, c'est une manière de se trouver, de se rencontrer soi-même, mais ça peut aussi être un excellent moyen de se perdre. Donc comment est-ce que toi tu gères le voyage ? Parce que je me rends compte que quand on voyage sur du long cours, c'est bien des fois de trouver un sens, parce qu'on peut des fois tourner en rond aussi. Est-ce que tu as expérimenté ça, cette remise en question du mouvement qui peut être nourrissant, mais qui quelquefois peut nous faire nous sentir un peu perdus ?
Absolument. Ne faut-il pas se perdre pour se retrouver ou pour se rencontrer ? Oui, j'ai expérimenté plein de couleurs de voyage. Je me suis formée aussi beaucoup à l'étranger. Je suis partie en Inde pour faire des études d'Ayurveda. Je suis partie en Thaïlande pour étudier le massage thaï et puis plusieurs spécialisations. Donc ça a été des voyages qui ont été des voyages parce que j'ai été quand même plongée dans des mondes... immergée dans l'Inde profonde, là, pour le coup, puisque c'était vraiment un coin qui n'était pas touristique. Et donc j'ai eu voilà, ces moments de connexion-là qui sont à la fois reliés par l'idée d'étudier, donc d'être à la fac, etc. Et en même temps, toute la vie qui s'organise autour, le quotidien, en fait, dans un contexte où il n'y a pas d'Occidentaux, ou très, 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 très peu. Et donc, du coup... Ouais, j'ai pris des cailloux, par exemple. On m'a jeté des cailloux dans ces villages-là. Et ça, c'est des... Pour moi, en tout cas, ça a été des moments qui ont été forts, en fait. De me demander qu'est-ce que je fais là, en quoi est-ce que je suis légitime à être ici, à venir aspirer un petit peu de la connaissance, etc. Et puis après, il y a eu les voyages de visite. Au début de notre entretien, tu disais... Tu commençais l'entretien en disant il y a des voyages où il y a des nourritures, parfois il y a la nourriture de la beauté de la terre en fait qu'on va voir dans différents endroits de la planète.
J'ai dit ça, moi.
Ouais, t'as dit ça. Tu l'as pas dit comme ça, mais tu l'as dit comme ça. Et il y a ensuite aussi ces rencontres humaines. Et moi, je me rends compte, là, depuis quelques années, que ma façon de voyager a changé. Et pendant des années, j'ai voyagé, gourmande de paysages. Et c'était ça qui m'intéressait. La rencontre humaine était secondaire pour moi. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de me retrouver immergée dans des codes qui m'étaient totalement étrangers, ce qui me permettait, moi, de rentrer en contact avec moi-même. D'aller voir comment est-ce que je me sentais là au milieu, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai à répondre au milieu d'un environnement social qui de toute façon pense différemment et que je ne comprends pas et que j'accepte de ne pas comprendre. Et là, depuis quelques années, je me rends compte que mon focus a changé et qu'effectivement, c'est la qualité de la rencontre ou la qualité des gens avec lesquels je voyage qui fait mes moments. Peut-être aussi parce que ça fait 30 ans que je me nourris de paysages incroyables.
30 ans, t'as quel âge ?
46.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, et pendant de 26, de 22 à 46, tu étais tout le temps en mouvement. Il y a quand même eu des phases de vie où tu as essayé peut-être de t'insérer dans la matrice, parce qu'il y a quand même toujours cette pression sociale, des fois familiale aussi. Là, je parle de ma propre expérience, hein, de voyageur aussi, où ma famille n'a pas arrêté de me dire « Mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu te poses ?» Est-ce que tu es passé par des phases un peu plus posées ou c'est vraiment 30 ans de mouvement ?
Non, c'est marrant parce que j'ai été très entourée justement après les études d'Ayurveda. En revenant en France, je commençais à avoir un outil de yoga que je commençais à avoir un petit peu quand même utilisé, expérimenté, traversé. Et j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui à ce moment-là me disaient « Mais quand est-ce que tu vas te poser et avoir un vrai métier ?» Puisqu'à ce moment-là, je travaillais dans le spectacle et donc du coup, je pouvais jongler au sens propre comme au sens figuré avec ce statut qu'on a en France et puis ce mode de vie qui est possible avec le spectacle, de rentrer, de sortir. Et à force de l'entendre, eh ben, ça a fini par me broyer le cerveau et je me suis dit alors peut-être il faut que j'essaye cette formule-là dont tout le monde parle, qui semble être la vraie vie. Et donc je suis partie pour le dernier grand voyage dans ma tête en me disant bon d'accord, je me pose, mais avant ça je pars une bonne fois. Et je crois que c'était en Asie effectivement à ce moment-là. Oui, les Himalayas, un grand voyage là en Asie. Et je suis revenue en France et donc j'ai décidé de me poser. Et là, je suis rentrée dans la matrice par le biais de l'enseignement, en fait. J'ai commencé à enseigner le yoga. Ça n'a pas duré très longtemps dans le sens matriciel, mais j'ai passé quand même un an à enseigner le yoga de façon très intensive à Paris. Ensuite, j'ai complètement trouvé mon format. Et ça a été très intéressant parce que en arrêtant cette façon de voyager très impulsive que j'avais, très régulière, j'ai trouvé mon moyen de faire d'autres voyages et j'ai commencé à explorer les techniques de son binaural qui sont des voyages dans la conscience en fait, qui font explorer les différents paliers de vibratoires du cerveau quand même sur différents plans de conscience. Donc j'ai arrêté de me déplacer sur le globe, je suis partie dans les étoiles et dans le temps. J'ai trouvé ma façon d'enseigner, j'ai complètement inventé ma façon de bosser.
C'est ça, c'est cette notion, cette phrase que j'avais lue aussi, gamin. Ne vis pas tes rêves, mais rêve ta vie et tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie, quelque chose comme ça.
Ben moi, ma porte d'entrée, mon vrai métier, ça a été prof de yoga. Je sais que pour plein de gens, c'est complètement le moment où ils font péter les cadres. Moi, ça a été mon cadre carré.
Non, le yoga, je vais pas pouvoir tomber sur ce champ-là parce que j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai que j'ai vu aussi une explosion des profs de yoga. Je crois qu'il y a vraiment cette notion de sens, cette quête de sens. C'est peut-être ça finalement Krishnamurti qui disait s'adapter à un système malade n'est pas forcément un signe de santé mentale ou de bonne santé mentale. Et cette quête de sens, je crois qu'elle est généralisée aujourd'hui en Occident. On a aujourd'hui la possibilité de se poser la question de quel est le sens de ma vie. Et dans cette quête, effectivement, beaucoup de gens vont dans le voyage essayer de répondre à cette quête de sens. Et le yoga fait partie des outils que je vois apparaître de plus en plus. Toutes ces sphères du développement personnel et de l'écologie intérieure qui est en train d'exploser.
J'ai grandi avec des parents enseignants et moi j'ai complètement bugué à 8 ans en cours d'éducation civique. Donc ça devait être, on est encore en primaire à 8 ans, où on m'a enseigné liberté, égalité, fraternité. Et à ce moment-là, à 8 ans et demi, j'ai écrit des pages et des pages et des pages dans mon journal intime. Sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de liberté. Je ne vois pas du haut de mes 8 ans où est la liberté dans la vie des adultes que je fréquente. Et je pense que ça, du coup, m'a vraiment construite, puisque ma vie est un chemin de recherche de liberté que j'ai commencé à expérimenter dans l'espace et dans le mouvement du corps ensuite, avec ces outils de yoga, de danse, etc. Et finalement, est-ce que tout ça n'est pas intérieur ?
Ouais, la liberté, c'est encore un concept que je vais te demander de me définir. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ?
Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Je pense que c'est d'arrêter de se prendre la tête. Dans le yoga, on dit citta vritti niruddha, cesser l'activité incessante du mental, se libérer tant qu'on peut des injonctions de notre culture, de notre éducation. Et trouver les espaces où à l'intérieur de soi on est en paix, j'y reviens à la paix.
Que tu nous poses dans le micro, ce que tu as observé dans l'évolution, dans la profession du yoga ou de ce qu'est le yoga aujourd'hui pour toi. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux où on voit des corps absolument parfaits et on a tendance peut-être à s'identifier. Enfin voilà, parle-moi de cette partie de toi, hein, le yoga et l'évolution et les limites que tu peux y voir aujourd'hui, notamment par rapport à Instagram.
Alors déjà, j'utilise le mot Instagram, mais je sais même pas comment ça s'écrit parce que j'y suis pas et que j'ai lâché les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qui circule sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. J'entends et je sais bien, mais je ne vois pas. Je ne peux parler que de mon expérience. Et moi, j'ai commencé à enseigner le yoga à un moment où j'étais à Paris et à ce moment-là, c'était possible d'en vivre. En tout cas, moi, j'ai pu en vivre avec les massages, c'était OK. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu rock'n'roll parce que tout le monde est prof de yoga, parce qu'il y a des formations qui sont très rapides. Et donc, par la force des choses, j'imagine que c'est le résultat d'un besoin, parce que ça ne peut pas éclore comme ça sans qu'il y en ait besoin. Après, je pense que depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont pris de l'essor en ligne. Il y a une présence sur les réseaux qui est devenue nécessaire pour remplir ces stages. Et ça fait partie maintenant intégrante de ce métier-là. Et c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Et je pense qu'il y a aussi toute cette super mode-là de la femme indépendante, monte ton business, l'auto-entrepreneuriat, les femmes debout, qui font que du coup, on se retrouve à faire des flyers à 4 heures du matin, à bosser 45 heures en 2 jours, et que de ce que je vois, en tout cas de ma génération de profs, il y en a beaucoup qui font un stop en fait, ou qui font marche arrière, ou qui calment le mouvement. Et en même temps, il y a aussi certainement une histoire de génération et que la jeunesse prenne sa place.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage,
regarde d'ailleurs,
chemin le plus court pour se découvrir soi.
Géraldine, on m'a dit, Géraldine vit dans un camion.
Ouais.
C'est vrai.
Ah bah il était une fois, c'est vrai que à 18 ans j'ai quitté ma province bien décidée à conquérir Paris. J'ai fait quelques 14 années de spectacle et j'ai vécu mes premières années dans un très joli appartement à Boulogne. Et à 20 ans, donc pas si longtemps plus tard, là aussi j'ai eu un autre bug où je me suis dit mais attends, en fait t'es en train de bosser pour payer ton loyer et tu paye un loyer pour dormir quelque part pour aller bosser. Tout ceci manque cruellement de respiration. Et à partir de là, en fait, je suis passée de la location d'un appartement pour moi toute seule à de la coloc, et puis à de la sous-loc, et puis à de la sous-sous-sous-loc, zouille, jusqu'à vivre sur un terrain en autonomie dans le sud, dans des bus, dans des habitats légers. Et puis la façon d'enseigner que j'ai trouvé qui correspondait à mes élans a été d'enseigner de façon très nomade, donc de lâcher les cours collectifs hebdomadaires dans les centres, etc., comme font en général les profs de yoga. Et donc j'ai commencé à intervenir sur les festivals, à être invitée dans les centres de yoga. J'ai écrit des bouquins, donc ça m'a permis d'avoir une petite carte qui m'a permis de rentrer ici et là. Et il y a eu un moment où je me suis bien rendu compte que le fait d'avoir un habitat fixe m'obligeait à faire des kilomètres qui n'étaient pas forcément nécessaires pour moi. Et donc habiter dans... faire l'escargot en fait. Avoir ma maison sur mon dos était bien plus pratique que d'avoir une maison dans un arbre. Donc du coup, j'ai eu mon premier camion, qui a été plutôt un camion de week-end au début. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'ai un grand et beau camion qui m'emmène de partout. Mais là aussi, comme le yoga, la vie de camion a hyper changé depuis quelques années et c'était bien.
Donc ouais, nomade, mouvement, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on a ce besoin de stopper ?
De faire un vrai métier ? Planter des arbres, d'aller arroser ses plantes, bordel ! Alors moi, j'ai trouvé une vraie stabilité dans la vie du camion, qui surprend beaucoup, mais finalement, je pense que quand on n'a pas vécu cette vie-là, on se rend pas compte que en vivant en camion, j'ai beaucoup plus mes repères qu'en étant invitée chez les copains à droite à gauche, parce que je me déplace avec ma chambre, avec ma cuisine, avec mes épices, avec ma bouffe, avec mes feutres, avec toutes mes affaires. Et donc, du coup, les yeux fermés, je sais où est ma brosse à dents et mes pantoufles. Donc, à partir du moment où je ferme le camion, ou en tout cas, une fois que je suis dans mon espace, dans ma bulle, et celle-ci, elle me suit que dehors, et il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, que je suis au bord d'un lac ou d'une forêt, ou dans une forêt. Donc, cette bulle, en tout cas, elle me suit. Mon cocon, il est avec moi, il est autour de moi. C'est vraiment le truc de l'escargot.
Mais tu disais avant, le camion, c'était mieux avant.
Ah bah c'était mieux avant, parce qu'aujourd'hui mes super secret spots ils sont sur Park Fortnite, et donc du coup les gars vous êtes faut se lever tôt quoi pour avoir une place à l'ombre. Ouais. Et puis aussi du coup il y a tellement de monde que les mairies en ont ras-le-bol, et qu'il y a des barres de hauteur de partout, et que moi j'ai un camion dans lequel je tiens debout donc qui ne passe pas sous les barres de hauteur, et qu'il y a eu des incendies qui font que toute la côte atlantique a été baissée de 10 cm donc du coup on passe plus nulle part, et que les endroits où on nous parque ne sont pas sexy pour un sou.
Et quand toi tu es en camion, tu le poses où en général? T'as quand même une partie de France où tu es le plus souvent. Je te demande pas ton secret spot, hein, je te demande juste dans quelle partie de France tu te retrouves. Où est-ce que la van life, hein, elle est la plus agréable à vivre? Parce que là je te rencontre en Alsace, mais je crois que t'es juste ici pour des raisons familiales. Sinon c'est pas du tout là que tu viens garer ton camion.
Non, et là en plus mon camion il est toujours dans le hangar. Ceci dit, je découvre en rencontrant de plus en plus de copains en Alsace que l'Alsace est un super spot à camion. À visiter aussi, mais voilà. Étant la terre de mon enfance, il m'a fallu un petit temps, en fait, pour accepter de revenir voyager. Moi, j'aime beaucoup la côte atlantique, j'aime beaucoup la Bretagne, j'aime beaucoup le sud-est, j'aime beaucoup l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude.
Ouais, donc en fait, t'es pas fixe avec ton camion pendant plusieurs mois à un endroit, t'es vraiment en mouvement permanent.
Je ne suis jamais restée plus de, je crois, 8 jours au même endroit. Si, j'ai fait 10 jours l'année dernière, et ça fait partie du ralentissement de la vieille du temps qui passe. Non, mais je sens que j'ai un besoin de ralentir, qui est le titre de mon dernier bouquin d'ailleurs, de passer plus de temps en fait, de bouger moins vite mais non, en tout cas c'est mon mode de vie, c'est pas de poser le camion et de rester 2 mois sur place.
Et comment est-ce que tu définis la direction ou la destination prochaine?
Eh bien, jusqu'à présent, tout était orchestré par rapport à mon planning professionnel, en fait. Passer d'un endroit à l'autre par rapport au stage qui est prévu, au festival qui est prévu. Et par contre, prendre vraiment le temps du chemin. J'ai beaucoup de potes de partout. Donc du coup, ça a été aussi très rythmé par ça, par les saisons aussi. Et si j'allais à cet endroit-là parce que là, il y a de l'ail des ours, et parce que là, il y a les cerises et nanana... Pour moi, pour mes cueillettes à moi, que j'en cueille 10 fois trop d'ailleurs, et j'en ai plein. Voilà, des envies de couleurs, des envies de sensations. Il y a des moments où j'ai envie de me prendre les bourrasques de vent et les embruns de la côte atlantique, et du coup je vais dans le coin de Quiberon, que j'adore. Il y a des moments où j'ai envie de des eaux claires ou des sources chaudes dans l'Aude, et donc du coup je descends. Il y a des moments où j'ai envie de des paysages incroyables de l'Ardèche, des copains et des marrons, et du coup je vais en Ardèche. Il y a des moments où j'ai envie de voilà, bla bla.
Quel serait ton message aux femmes seules qui veulent vivre ou qui veulent se lancer dans la van life?
Alors ça c'est un gros sujet, la peur, hein, parce que c'est la première chose que moi en tout cas en tant que femme seule en camion j'entends, c'est assez super mais t'as pas peur. Donc j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup fait des vidéos d'ailleurs sur la peur. Je dirais juste que dans mon expérience en tout cas, j'ai identifié 2 types de peur. Une peur que j'appelle le crocodile en dessous du lit, le crocodile en dessous du lit des enfants, c'est-à-dire les peurs à la con, et qui sont le fruit de notre éducation et du fait que être une femme seule, de toute façon, quoi qu'il se passe, dès qu'on sort un petit peu de la ville, dès qu'on est dans le sauvage, il faut toujours avoir peur de se promener seule en forêt, de voyager toute seule, de vivre en camion, d'aller se baigner la nuit, de se mettre à poil je sais pas où, il faut toujours avoir peur. Donc ça, c'est ce que j'appelle les peurs crocodiles. Et puis ensuite, il y a les peurs de pressenti, en fait. de je le sens pas. Et ce je le sens pas là, même si ça coûte 200 bornes, je pense qu'il faut l'écouter. Ça évite les emmerdes. Et voilà. Et après, j'ai appris à mes dépens que c'est bien de fermer ses portes. De prendre ses clés à l'intérieur quand tu fermes tes portes. Quand tu es dans ton camion et que tu dors, tu fermes ta porte et tu gardes les clés avec toi. Parce que si elle reste sur le baril, la serrure à l'extérieur, ça ne sert à rien d'avoir fermé. Et que si c'est ouvert, ben, on peut rentrer.
Okay. Donc on t'a déjà embêté.
J'ai déjà eu le petit avertissement gentil. Je pense que c'était le plus doux qu'il ait pu m'arriver. Parce que moi, je suis du genre à dormir porte ouverte, clé sur le démarreur. Et après 10 ans comme ça, il y a eu une nuit où il y a 2 mecs qui sont rentrés dans le camion et qui ont pris mon porte-monnaie. Ils ont pris que le cash. Il y en avait un peu, mais c'est tout ce qui s'est passé. Et donc c'était, je pense, ce qui a pu être le plus doux, mais qui m'a quand même averti qu'aujourd'hui, les écarts se creusent et que même les gens en camion qui ne gagnent pas des 1000 et des 100, parfois peuvent avoir des choses que d'autres gens peuvent avoir envie de prendre. Ça m'a fait mal, mais du coup, j'ai fermé mes portes.
Mais c'est aussi bien de se rappeler qu'effectivement, le monde, de manière générale, est souvent bienveillant. Mais faut pas non plus être complètement inconscient.
Utopiste.
Disons utopiste.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Quand tu es arrivé dans le salon, je t'ai demandé, tu es resté combien de temps ici? Tu m'as répondu, je ne sais pas. Et ça, je trouve que voilà, pour en revenir à cette notion de liberté, hein, du concept de billet simple, aller simple, et surtout de savoir l'assumer, je trouve ça assez incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même besoin d'être sécurisé, d'être rassuré, d'avoir un projet, d'avoir un plan. Et quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, et qui l'assume, je trouve que ça a une force assez incroyable que peu de gens ont.
Alors je ne sais pas, c'est un concept là effectivement que j'explore depuis quelques mois et qui il y a eu des moments où je me suis dit bon ce serait quand même bien de savoir un peu, mais je me suis dit je vais partir dans le je ne sais pas, donc dans le je ne mens, parce que moi je suis du genre à dire ok d'accord on se voit après-demain à 18h et puis du coup après-demain à 17h30 j'ai pas du tout envie et je me sens coincée par mon engagement et ça je me vois dans ce genre de situation depuis des années, donc je me suis dit que le je ne sais pas était une bonne solution. Quand est-ce qu'on se voit? Je sais pas, je t'appelle. Et donc là, sur les 6 derniers mois de mon je ne sais pas où je vais, combien de temps je reste et pourquoi faire je suis là, il y a eu quand même des grands moments de vide où je savais pas, mais du coup, ascendant balance, je connais le je ne sais pas et j'ai trouvé ma technique pour pas que ça prenne trop de place dans mon mental, ça a été de la pièce en fait, il y a des décisions que je prends à pile ou face. Quand je ne sais pas, répond trop, je ne sais pas. Au bout d'un moment, il faut faire des choses. Après, dans ces explorations de liberté, il y a eu un grand moment que j'ai adoré. Il y a eu un matin où je me suis réveillée en me disant, je sens que là, il faut que je me casse. À midi, j'ai pris un billet d'avion. Et le soir, j'étais dans l'avion et je quittais l'île Maurice en classe 2 cyclonique. Voilà, j'avais décidé ça le jour même et ça, j'ai adoré. Et je sais qu'il y a pas mal de copines qui ont des enfants, des maris, des maisons, des boulots. Ils m'ont dit, ah ouais, ça c'est un truc complètement impossible dans ma vie. Moi, j'ai fait ce choix-là aussi, quoi, on n'a pas tous envie de pas avoir de mari, de baraque, de boulot, de sécurité de la retraite et d'enfants à mon âge. Pour moi, c'est la résonance de la liberté. Et dans les discussions que j'ai avec les gens qui ont fait d'autres choix, je suis très admirative des gens qui ont fait des choix professionnels, des choix de couple et des choix d'enfants et qui assument ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je leur baise les pieds, comme je leur dis souvent. Merci de perpétuer l'espèce, parce que moi, pas cap, en fait. Ma liberté, c'est ma solution de facilité. Donc, je suis allée vers ce qui me parlait. C'est pas un défi, en fait. C'est ma respiration. laisser le camion sous un hangar, en fait, finalement, répond aussi à une envie, besoin, là, qui s'est révélée il y a peu de temps, c'est de voyager encore plus léger qu'avec un camion, que d'avoir une vie encore plus légère que celle du camion. Non, mais le minimalisme, c'est choisir ton objet préféré et vivre avec lui tout le temps. C'est avoir ta plus belle cuillère du monde, avec ton plus beau bol du monde, avec tes trois tenues phares. C'est génial, moi j'adore. Du coup, j'hésite pas à avoir des objets de qualité, genre de la super porcelaine dans le camion qui casse. C'est choisir des objets et ça me fait penser à cette japonaise là, Marie Kondo. Voilà, je garde les objets qui me donnent de la joie et c'est génial en fait de vivre entouré que d'objets, d'utiliser tous les jours des objets qui me donnent de la joie. Le pratique, éthique et beau, moi je dis.
Géraldine Le Tenet, merci, merci à toi.
Namasté, bonne soirée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.